Gaël Faye, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes l'auteur de Petit Pays chez Grasset, qui est un peu la révélation de cette rentrée, l'un des grands succès, couronné par le prix FNAC. Vous êtes toujours en lice pour le Goncourt, mais aussi le Goncourt des lycéens. Comment vous vivez là, tout ce qui vous tombe sur la tête en ce moment, tout ce qui vous arrive?
Je le vis avec beaucoup de plaisir, avec aussi beaucoup d'étonnement. Je ne m'attendais pas à un tel accueil pour ce roman, donc j'essaye malgré la fatigue et le fait que il y a quand même depuis 2 mois un rythme assez freiné, j'essaye de profiter un maximum de ce plaisir rare dans une vie, d'avoir de l'attention pour ce que l'on a créé, pour ce que l'on fait. Je me sens très privilégié.
Alors, vous dites vous-même que ce succès, cet accueil vous surprend. Est-ce que vous avez une explication?
Non, je ne l'explique pas. Vraiment, je ne l'explique pas. En plus, je me sens trop proche de cette histoire pour l'analyser. Donc, je laisse le soin aux autres de le faire.
Alors, l'explication, elle est peut-être apportée par, justement, ce qu'on vous en dit. Vous avez évidemment beaucoup de retours de lecture, beaucoup de rencontres avec ces lecteurs. En particulier, vous participez aux rencontres avec les lycéens dans le cadre du Goncourt des lycéens. Qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce qu'on vous dit le plus souvent? Qu'est-ce qui revient le plus fréquemment?
Ce qu'on me dit, c'est que le plus fréquemment, c'est qu'on arrive à rentrer dans cette histoire, l'histoire de la région des Grands Lacs, donc d'Afrique, Burundi, Rwanda, et pour une fois de se sentir familier avec les personnages. Parce que souvent, c'est ce que certains lecteurs me disent, ils avaient voulu comprendre ce qui s'était passé là-bas, mais que les écrits les laissaient en dehors de cette histoire, et que là, il y a une forme de familiarité, d'identification avec le personnage de Gabriel, par exemple. Et donc, ils me disent aussi que le fait que ce soit écrit à hauteur d'enfant permet aussi de rentrer plus facilement dans cette histoire, parce que ce regard d'enfant atténue la violence d'une certaine manière par le ton, par la manière dont il aborde cette histoire qui commence d'une manière assez douce, mais qui finit quand même dans une violence terrible.
Oui, parce qu'on pourrait être très étonné par ce succès. C'est une histoire, une tragédie qui paraissent tellement éloignés de la France. Or, il y a sans doute, et vous l'avez évoqué, une faculté d'identification des lecteurs, et elle passe peut-être par là, par le prisme de l'enfance. C'est peut-être ça qui lui donne une dimension universelle.
Peut-être. Alors, c'est vraiment quelque chose dont je n'avais pas conscience en l'écrivant. Je ne pensais pas que d'utiliser le personnage d'un enfant, ça...
Donc Gabriel, en l'occurrence,
Gabriel,
Gabi.
Ça pouvait comme ça permettre de rentrer plus facilement dans cette histoire. D'ailleurs, dans la première mouture du texte, il y a aussi la voix de Gabriel adulte qui est là dans ce roman, mais elle était aussi présente que celle de la voix de l'enfant. Bon, finalement, j'ai décidé de la supprimer plus pour des raisons de rythme, mais j'avais pas pris la conscience de ça, donc c'est une bonne surprise.
Parce que c'est un livre, alors bien sûr, il y a tout ce contexte de la guerre et des massacres au Rwanda et au Burundi, mais le vrai sujet aussi de ce livre, c'est l'évocation du paradis perdu, de l'enfance, et là nous portons tous en nous ce paradis perdu.
Oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'était ma première ambition quand j'ai écrit ce texte. C'était non pas d'aborder la question du génocide au Rwanda ou de la guerre au Burundi, mais de revenir sur ce paradis d'enfant, cette innocence oubliée, passée, perdue. J'ai moi-même vécu au Burundi cette période-là. Et j'en gardais très peu de souvenirs que des sensations diffuses. La guerre avait mis un écran entre mon exil et cette période-là, et c'était sur ces sensations-là que j'avais envie de revenir. Donc effectivement, je crois que ça aussi peut expliquer en partie l'accueil du livre, c'est-à-dire on est, comme dit le personnage, on est tous un peu exilés de notre enfance en tant qu'adultes, et ça je m'en suis rendu compte en retournant à Bujumbura il y a quelques années.
La capitale du Burundi.
Oui. Je voulais revoir la maison de mon enfance, le quartier. J'y avais mis beaucoup de fantasmes, de rêves de ce moment-là où j'allais retrouver ces lieux. J'étais sûr que ça allait m'emplir de bonheur, et j'ai eu une très grande mélancolie en retrouvant ces lieux. Parce qu'ils étaient vides de l'atmosphère, des gens qui peuplaient, de la tendresse, de l'amitié qu'il existait à l'époque dans ce quartier. Les gens avaient disparu, les lieux étaient toujours là. Et donc cette idée-là s'est imposée à moi, l'exil de l'enfance est plus douloureuse que celle du pays. Et puis j'ai aussi des témoignages par rapport à la question de la lecture. Bien que ça ne prenne pas non plus une place immense dans le roman, mais c'est vrai que Gabriel rencontre Madame Economopoulos.
Economopoulos, la voisine grecque.
C'est ça, qui lui fait découvrir les livres, qui lui dit une phrase comme « Méfie-toi des livres, ce sont des génies endormis, un livre peut changer une vie ». Et j'ai des lycéens qui sont venus me dire ça, c'était très fort de me dire... Monsieur, ce que Madame Economopoulos dit à Gabriel, eh bien, je le prends à mon compte. Votre livre, je pense qu'il va compter dans ma vie, qu'il va la changer. Donc c'est sûr que pour moi qui écris ce premier roman, recevoir ce type de témoignage, c'est bouleversant.
Et là, je me disais, alors pour le coup, que cette notation sur les livres et la lecture, et ce personnage de Madame Economopoulos, c'était peut-être entièrement autobiographique.
Non, pas. C'est plus un fantasme. Moi, je suis arrivé à la lecture par l'écriture. J'ai écrit parce que j'ai eu l'impression dans ma vie que j'avais pas le choix. Il fallait que je trouve un endroit où me recentrer en quelque sorte. J'avais eu une identité éclatée et l'écriture me permettait de réassembler un peu le puzzle de cet humain morcelé que j'étais. Et ce travail d'écriture m'a rapidement amené vers la lecture parce que j'avais envie de voir comment les autres écrivaient. Donc j'ai rencontré les écrivains de cette manière-là. Et Madame Economopoulos, c'est un peu un fantasme. C'est de... me dire j'aurais aimé à un certain âge qu'un adulte vienne avec des livres, avec une bienveillance, en me disant là tu trouveras peut-être des réponses à tes questions ou un sauvetage quelconque, et parce que à l'adolescence j'avais cette envie là de trouver du sens et des réponses à des questions.
Ah mais c'est intéressant ça. C'est là où on voit que bien évidemment il était précisé roman sur la couverture et que l'on est bien dans un roman, qu'il s'agit d'une reconstruction complète à partir d'éléments pourtant évidemment vrais et autobiographiques pour certains. Cette histoire à la fois c'est un peu la vôtre et c'est celle d'un autre.
Oui.
Votre trajectoire personnelle, heureusement, a été moins tragique que celle de Gabriel.
J'ai vécu exactement la même période.
Oui, la chronologie est la même pour vous.
La chronologie, c'était la même. Ça me permettait de faire un travail également personnel. Je suis allé consulter des documents parce que j'étais jeune, j'avais 12 ans. Donc politiquement, je ne me souvenais pas ce qui s'était passé au jour le jour. Et donc de redérouler cette chronologie, de m'intéresser à cette époque, quel jour a eu lieu le coup d'État, à quel moment ont eu lieu les accords de paix, à quel moment le génocide a commencé. Tout ça, c'était très flou dans mon esprit d'enfant. Si j'ai donné la chronologie de ma propre existence, du moment où j'ai quitté, c'était aussi pour analyser, pour moi, là, alors là, c'était complètement personnel, cette histoire.
Mais votre famille a été davantage épargnée que celle du petit Gabriel ?
Oui, complètement. Je pense surtout à la mère de Gabriel, Yvonne, qui, on va le voir, va traverser une épreuve très douloureuse de retourner au Rwanda pendant le génocide. Moi, je n'ai pas du tout cette configuration de familiale, mais tous les personnages qui sont dans ce livre m'ont été inspirés par des gens que j'ai pu croiser. Yvonne, elle est l'archétype de certaines rescapées rwandaises que je peux rencontrer aujourd'hui à Kigali, parce que j'y vis depuis un an et demi et que j'aime beaucoup converser et échanger avec les gens qui ont vécu cette époque, parce que ce sont des mémoires importantes qui vont disparaître, mais qui nous disent beaucoup sur ce que c'est aussi que la nature humaine. Et je crois que c'est important d'écouter les survivants.
C'est une thérapie, ce livre, d'une certaine manière, pour vous, ou pas du tout? Est-ce qu'il n'avait pas cette vertu-là? Enfin, ça n'est pas ce que vous avez recherché.
Non, j'ai absolument pas recherché ça. Je fais de la musique par ailleurs et j'avais sorti un album il y a quelques années qui s'appelait Pili Pili sur un croissant beurre et qui, pour le coup, était un album thérapeutique. Ce livre, non, ça ne l'était pas. Le projet de départ, c'était d'écrire un roman et je ne savais pas quelle histoire j'allais écrire. J'ai commencé...
Pas forcément, justement, sur ces événements-là.
Non, pas forcément sur ces événements-là. J'ai commencé d'autres histoires. Mais j'ai comme ça une idée dans la tête. Enfin, je crois qu'on a tous en soi, même les gens qui n'écrivent pas, on a tous un roman en soi. Et que pour commencer sainement dans l'écriture, il faut au moins déposer ce premier roman. Je pense que le mien, c'était celui-ci. C'était mettre au clair cette enfance. Donc j'ai voulu, très vite, je me suis rendu compte que c'était ce qu'il fallait que je fasse, c'était d'écrire ce roman pour passer après à d'autres histoires.
Peut-être pour vous démazouter, je vous cite, le génocide est une marée noire, ceux qui ne s'y sont pas noyés, ce qui est votre cas, sont mazoutés à vie.
Oui, je pense que le génocide est un crime qui a la particularité de durer dans le temps et même... et de sauter les générations et d'être encore... Il peut même être traumatisant pour la troisième, quatrième génération si l'on ne met pas les mots, si l'on ne dit pas la chose, si l'on ne prend pas garde. On transmet à ses enfants le traumatisme. Et je le vois au Rwanda... pendant les commémorations, il y a des moments de crise collective où les gens ont des réminiscences des massacres, partent dans des traumatismes qu'ils expriment physiquement. Et il y a des jeunes qui n'étaient pas là pendant le génocide, qui n'étaient pas nés et qui pourtant ont ces traumatismes également parce que... Ils prennent cette histoire et on n'est pas de mots dessus. Donc je crois qu'il faut être très attentif à cela.
Mais par exemple, vous, c'est une histoire que vous allez porter en permanence. Vous le savez déjà, on n'en a jamais fini avec ça.
Oui, je crois qu'on n'en a jamais fini parce que comme on n'explique pas un génocide, il y a le pourquoi. Pourquoi il y a eu, pourquoi... On a décidé de rayer de la surface de la planète des hommes, des femmes, des enfants pour la simple raison qu'ils étaient. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais on peut essayer de l'analyser, le comment tout ça a été mis en place. Et je crois que comme ça interroge la folie, mais l'intelligence de la folie de l'homme, il y a quelque chose comme ça de vertigineux qui nous oblige à nous interroger parce que c'est la folie suprême de la civilisation. Il ne faut pas oublier que le génocide, ce n'est pas de la barbarie, c'est pas de l'explosion subite de haine. Ce sont des projets politiques très forts qui utilisent tout un appareil de l'État. Et donc ça doit nous questionner, ça doit questionner même nos sociétés modernes. Les sociétés, on a l'impression que la paix est là, qu'elle sera durable. Le germe du génocide est toujours présent. Donc bien sûr, je crois que quand on l'a vécu à travers sa communauté, à travers sa chair, on est encore plus vigilant sur la question et on garde cette histoire en soi tout le temps.
Alors les mots, vous les manipuliez pourtant déjà par le rap, la chanson. Pourquoi aller vers un livre, vers la littérature? Il vous manquait quelque chose avec les textes de chansons?
C'est de la curiosité. J'avais envie d'explorer d'autres zones, d'autres endroits. Et c'est vrai que la chanson, il y avait quelque chose de plus spontané, de plus accessible, surtout le hip-hop, parce que le hip-hop ne demande pas de préalable. On n'a pas besoin d'aller au conservatoire, on n'a pas besoin d'acheter un instrument de musique. Il suffit d'avoir les mots, on a même des fois pas besoin ni de papier ni de stylo. On peut improviser, on peut y aller. C'est quelque chose qui, moi, m'a tout de suite plu dans cette pratique. Mais c'est avant tout les mots, c'est avant tout l'écriture qui était importante pour moi. Et la littérature était comme ça un lieu inaccessible, mais la curiosité l'a emporté, a été plus grande. Donc je me suis permis le droit j'ai pris le droit d'écrire ce roman. Il ne faut pas oublier que l'écriture, ça doit être aussi un plaisir. Ce n'est pas forcément escalader l'Everest. On peut juste faire un petit tour dans le quartier, aller à la boulangerie et revenir. C'est ce que j'ai voulu faire aussi avec ce livre. Ce n'est pas de me dire, je rentre en littérature, je vais devenir un grand écrivain. J'ai surtout eu envie de me dire, j'ai quelque chose à raconter, j'ai envie d'aller dans un lieu avec des mots, j'ai envie de le partager, de toucher d'autres personnes. Et c'est, je pense aussi, quelque chose qu'il faut dire au lecteur qui voudrait un jour écrire, que c'est un lieu où on peut aller. Ce n'est pas parce qu'on a lu d'immenses livres qu'il faut se priver de ce plaisir.
Vous avez un parcours assez intéressant, avec déjà des vies multiples. Donc vous êtes arrivé en France, vous aviez
13 ans.
Et donc vous grandissez en France, vous suivez votre scolarité. Et premier métier, trader, c'est ça?
Oui, j'étais gestionnaire d'un fonds, dans un fonds d'investissement à Londres. Donc j'ai travaillé.
On est bien loin de la littérature, là. Ouais. Les chiffres avant les lettres.
Oui, c'était un peu ça.
Mais c'était quoi? Vous aviez envie de ça ou c'est le hasard de...
Oui, c'est le hasard de la vie. Moi, j'avais envie de faire des études de lettres ou de philosophie. Et puis, très rapidement, sur des conseils de la famille ou de conseillers d'orientation qui m'ont dit que ce qui était surtout important dans la vie, c'est d'avoir un métier, de ne pas être au chômage, qu'il ne fallait pas choisir des voies de garage ou qui nous menaient directement au pôle emploi. C'est cette peur qu'on entretenait autour de moi a eu raison de mes décisions. Et donc, j'ai fait des études un peu en pilotage automatique, sans passion. Donc, j'ai travaillé dans des bureaux, dans un...
Donc à la City.
Exactement, mais très rapidement, même si c'était impressionnant pour le jeune étudiant que j'étais, et puis de démarrer comme ça dans ce monde feutré, à parler de chiffres, à parler de très grandes sommes, etc. C'était impressionnant, mais le quotidien m'ennuyait vraiment beaucoup. Et je ressentais que ce qui était important pour moi, c'était de créer. Et là, j'avais l'impression de ne rien créer. J'avais juste l'impression d'être la pièce d'un rouage et que j'étais quelqu'un qu'on pouvait déplacer ou qui pouvait disparaître, être remplacé par... Et j'avais envie d'une singularité. J'avais envie d'exister, quoi, d'être
être quelqu'un.
Il y a quelque chose. Je pense comme... tous les artistes, il y a quelque chose de très narcissique, finalement. Et il ne faut pas se voiler la face. Donc je me disais qu'il fallait quand même être quelqu'un, créer, être là, être au monde, et pas être indistinct comme ça dans une foule.
Aujourd'hui, vous êtes retourné au Rwanda. C'est ça, vous vivez au Rwanda.
Oui.
Pourquoi ce choix?
Pour aussi aller à la rencontre de cette autre culture dont je suis issu, qui est la culture rwandaise. Ma mère est rwandaise, moi aussi, j'ai la nationalité rwandaise en plus de la nationalité française. Mais malgré tout, c'était un pays que je ne connaissais pas, parce que avant le génocide on n'avait pas le droit d'y aller.
Oui, vous étiez déjà exilé, en fait, oui, enfin, au Burundi.
Famille, oui, c'était une famille de réfugiés, Tutsi, qui avait fui les massacres. Donc là, ma famille est retournée s'installer après le génocide. J'y allais pendant des vacances et c'est vrai que le pays que j'ai vu juste après le génocide était un pays meurtri, un pays ravagé. Et c'est une image que j'ai gardée pendant longtemps où je me disais que c'était pas un pays où on pouvait vivre une vie normale, c'était pas possible. Et les années passant, voyant aussi le Rwanda changer, le Rwanda se reconstruire, se remettre debout, j'avais envie de passer au-delà de l'image du génocide et de m'intégrer dans cette société pour la comprendre et pour aussi éloigner le spectre du génocide, se dire que la vie avait repris ses droits et rien de mieux que d'y vivre parce que y aller en vacances, finalement, c'est rien qu'un petit instant où on peut encore continuer à fantasmer les choses, alors que d'y vivre, effectivement, ça permet de s'ancrer et puis de voir la réalité telle qu'elle est.
Et vous y êtes heureux ?
J'y suis heureux, oui. J'y suis heureux en famille. Et tous les jours, je découvre et tous les jours, j'apprends sur l'histoire du Rwanda, de la région et sur la mienne aussi, sur ma petite histoire.
Quelle formidable leçon d'espérance, finalement, quand on jette un œil sur le passé terrible de ce pays.
Oui. Oui, je trouve que c'est un peuple qui mériterait d'être encore plus connu, encore plus analysé. Il y a des très beaux livres, hein, je pense surtout au livre de Jean Asfeld, où on montre la résilience aussi des Rwandais, cette capacité à se reconstruire, à cohabiter malgré tout entre victimes et bourreaux. Ancienne victime, ancien bourreau, parce que les ethnies ont été abolies. Il y a une volonté de croire en l'avenir. Je pense que c'est un cas unique dans l'histoire contemporaine, où sur un petit territoire où il y a eu 1 million de gens tués en si peu de temps, avec une idéologie génocidaire très forte, où... voilà, en si peu de temps, en 22 ans, on a réussi à remettre en place une société qui vit, qui a énormément de défis, mais qui en tout cas croit en l'avenir.
Merci Gaël Faye, Petit Pays, publié chez Grasset.
Merci beaucoup.